Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La guerre dévastatrice se poursuit en Syrie. Le nombre des victimes s'alourdit de jour en jour. Le Vatican a accueilli une rencontre de coordination des organismes caritatifs catholiques qui opèrent au cœur de la crise syrienne. L'occasion pour le pape François de lancer un appel pour que les armes se taisent au plus vite. Le pape François qui a également plaidé en faveur de la survie des chrétiens au Moyen-Orient. C'est la une de ce magazine. Nous parlerons également des journées des catholiques allemands qui se déroulent à Ratisbonne et de la journée chrétienne des communications social qui se tiendra dimanche. Nous verrons aussi que le juge antiterroriste Marc Trévidic a été contraint de reporter sa mission en Algérie faute d'invitation officielle. Le pape François a exprimé une nouvelle fois sa douleur face à la poursuite de la guerre en Syrie. Le Saint-Père a tenu à rencontrer les humanitaires catholiques réunis ce vendredi au Vatican sous les auspices du Conseil pontifical Coronum pour faire le point sur l'aide déployée en faveur des populations frappées par ce terrible conflit. Cette rencontre de coordination s'est déroulée en présence du président de Caritas Syrie, Mgr Antoine Odo, du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, du nonce apostolique en Syrie, Mgr Mario Zenari et de plusieurs responsables catholiques de la région, Cyprien Viette.
Dans un texte remis aux participants, le pape François lance une mise en garde contre le risque de s'habituer à la crise syrienne, d'oublier les victimes quotidiennes, les souffrances indescriptibles, les milliers de réfugiés, dont des personnes âgées, des enfants, qui endurent et parfois meurent de faim et de maladies à cause de la guerre. Encore une fois, le souverain pontife a dénoncé avec force la globalisation de l'indifférence. Les organismes caritatifs catholiques doivent, dit-il, poursuivre leur action de paix et d'assistance humanitaire en lien avec les pasteurs et les communautés locales. Il faut trouver des formes de collaboration stable pour soutenir les églises locales et toutes les victimes de la guerre sans distinction ethnique, religieuse ou sociale. Mais le pape François a aussi voulu adresser un nouvel appel aux consciences des acteurs du conflit, des institutions mondiales et de l'opinion publique pour qu'ils fassent taire les armes au plus vite et qu'ils engagent les négociations. La guerre détruit, tue et appauvrit les peuples et les pays, a-t-il averti. Le successeur de Pierre pense en particulier aux communautés chrétiennes qui souffrent et qui espèrent. Leur survie dans tout le Moyen-Orient, insiste-t-il, est une source de préoccupation. Occupation profonde pour l'Église universelle, le christianisme doit pouvoir continuer à vivre là où se trouvent ses origines.
Cette réunion est le signe de l'importance que revêt le Moyen-Orient pour l'Église. Le cardinal Robert Sarah, président du Conseil pontifical Coronum, insiste sur l'importance de promouvoir l'amour et la paix dans les cœurs.
Je pense qu'aujourd'hui, seul le dialogue, seule la réconciliation peut faire espérer un retour de la paix en Syrie. Parce que les armes, les conflits, ne font que détruire et disperser les gens. Et donc, même si c'est difficile, même si ça paraît impossible, nous devons nous acheminer vers des rencontres qui promeuvent le dialogue et la réconciliation. Il n'y a pas d'autre chemin pour moi. La guerre, non. Et la preuve, le Saint-Père vient de convoquer pour la situation de Palestine une rencontre de prière. Et je pense que lorsqu'on se met ensemble devant Dieu, quelque chose peut changer dans notre cœur. Car tant que le cœur ne changera pas, il n'y a pas possibilité de nous acheminer vers la paix et la réconciliation. C'est Dieu qui donne la paix et c'est Dieu qui nous réconcilie.
Le cardinal Sarah, président du Conseil pontifical Coronum. La rencontre de prière pour la paix prévue dans l'après-midi du 8 juin au Vatican va raviver l'espérance. C'est le secrétaire d'État du Saint-Siège qui l'affirme. Le pape François a invité les présidents israéliens et palestiniens, Shimon Peres et Mahmoud Abbas, à prier ensemble avec lui. Et cette rencontre suscite bien sûr un vif intérêt. Interrogé par Radio Vatican, le cardinal Pietro Parolin souligne que le Saint-Père a voulu miser sur la prière comme force de paix. Cette rencontre aura donc une considérable valeur symbolique. Le cardinal Parolin espère que là où les efforts humains ont jusqu'ici échoué, Dieu accorde sagesse et courage aux responsables pour mener à bien un plan de paix authentique. Il faut, selon lui, renforcer la confiance pour surmonter les nombreux obstacles qui entravent le chemin de la paix en Terre Sainte. Et à propos de la Syrie, le secrétaire d'État a confirmé que le Saint-Siège suivait ce conflit avec la plus grande inquiétude et ce, de depuis le début. Actuellement, il craint que cette crise ne finisse parmi les conflits oubliés, d'où le souci du Saint-Siège d'attirer l'attention de toutes les personnes concernées. Pour le Vatican, la solution négociée est la seule réponse valable à cette crise. Mais pour cela, il faut une volonté politique. Le Saint-Siège réclame par ailleurs l'ouverture de corridors humanitaires pour que les vivres et les soins médicaux puissent parvenir à toute la population sans distinction. Quant aux chrétiens de Syrie, ils doivent s'efforcer d'être des artisans de communion et de rapprochement entre les parties en conflit. Mais quelle est la stratégie des humanitaires catholiques sur place? Je vous propose d'écouter le président de Caritas Syrie, Mgr Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep.
Caritas Syrie a fait le choix de cette priorité pour servir tous les Syriens de toutes les confessions. En premier lieu, bien sûr, c'est le besoin alimentaire. On distribue au moins quelque chose comme 15 000 portions alimentaires pour les familles chaque mois. Et puis l'aide médicale, opérations et médicaments. Troisième point, c'est tout ce qui est éducatif, les écoles et les universités. On aide un grand nombre d'enfants et de jeunes. Quatre, tout ce qui est personnes âgées, laissées à elles-mêmes. On a des équipes qui s'occupent des médicaments des personnes âgées et de l'argent de poche pour les soutenir. Et puis tout ce qui est personnes déplacées pour payer leur loyer, avoir un appartement, beaucoup de maisons détruites. Et enfin, le dernier point, nous avons formé un fonds d'urgence. À chaque fois qu'il y a à un endroit une attaque, un grand risque, Caritas intervient pour soutenir les familles et les accompagner. L'année prochaine, nous voulons davantage travailler sur les aspects psychosociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont secoués par cette situation psychologiquement, surtout les enfants, les accompagner par des activités scolaires, en les aidant à être eux-mêmes, à se retrouver, et comme ça reconstruire les familles, et surtout les femmes aussi. En deuxième lieu, aider les jeunes à monter des petits projets professionnels.
Mgr Antoine Odo, président de Caritas Syrie, interrogé par notre confrère de la rédaction italienne Massimiliano Menichetti. Parmi les organismes caritatifs catholiques qui opèrent au cœur de la crise syrienne, il y a le Secours catholique Caritas France. Sébastien Dechamps est responsable des urgences internationales. Selon lui, la première priorité pour le peuple syrien, c'est bien sûr la paix et une augmentation massive de l'aide humanitaire.
On parle d'abris, de logements, d'accès à l'eau, d'accès à la santé, de nourriture, de vêtements, d'éducation aussi qu'il ne faut pas oublier. 50% de ces réfugiés et de ces déplacés ont moins de 18 ans, donc ça signifie des besoins immenses en termes d'éducation, de scolarité. Et ces besoins ne sont pas aujourd'hui, pour la plupart, reconnus, ne sont pas satisfaits. Et ça a des conséquences, ça aura des conséquences vraiment terribles pour l'avenir de la Syrie si rien n'est fait en ce sens. Mais ce qui passe aussi par quelque chose de politique, c'est-à-dire de faire en sorte que l'aide humanitaire ait accès aux personnes qui en ont besoin. Et sur une dizaine de millions de personnes qui sont dans le besoin là-bas, finalement, ils sont des millions également à ne pas avoir accès parce que les organisations ne peuvent pas circuler librement, ne peuvent pas se rendre librement auprès des personnes qui en ont besoin, ne peuvent même pas évaluer professionnellement les différents besoins. Ensuite, bien entendu, une augmentation des moyens financiers qui sont mis à la disposition des organisations humanitaires. Les Nations Unies ont lancé au mois de décembre dernier l'appel le plus grand de toute l'histoire de l'organisation, de l'ordre de 6 milliards de dollars rien que pour l'année 2014. Ces 6 milliards de dollars n'ont pas été rassemblés, environ 60% seulement. Ça montre l'ampleur des besoins. On parle là de millions de personnes qui, tous les jours, ont besoin d'un repas. Donc on a vraiment besoin de décisions politiques pour faire en sorte que, financièrement, les organisations humanitaires, des Nations Unies, des ONG, aient les moyens de faire leur travail.
Et aussi donc un soutien au niveau des différents gouvernements.
La plupart d'entre eux font des gestes. Nous recevons au Secours catholique un appui de l'Union européenne pour un programme mis en place avec Caritas Liban auprès des réfugiés syriens dans ce pays. Nous recevons aussi un appui du ministère des Affaires étrangères de l'État français. C'est bien, ce n'est pas suffisant. Ce que nous avons dit aussi, c'est que toute la problématique de l'accueil des réfugiés syriens en Europe n'est pas suffisamment prise en compte non plus. Nous avons lancé avec d'autres organisations en France, il y avait Amnesty International, il y avait Médecins du Monde, il y avait le Secours Islamique Français, le CCFD, un appel au gouvernement français pour que davantage de réfugiés syriens soient également accueillis en France. plus largement en Europe. Il est injuste et il est intenable, à terme, que plus d'1,5 million de réfugiés syriens soient aujourd'hui accueillis au Liban, un pays de 4 millions d'habitants, qu'environ 1 million de réfugiés syriens soient accueillis en Jordanie, un pays de 6 ou 8 millions d'habitants, alors qu'en France, on les compte peut-être à 500, 1000, en Allemagne, 5000. C'est tout à fait dérisoire l'effort que l'Europe fait aujourd'hui en termes d'accueil de ces personnes.
Et concernant plus au niveau de la population française, qu'est-ce que vous faites pour les sensibiliser à la crise syrienne ?
Il n'est pas facile de sensibiliser le grand public aux crises longues qui ne sont pas nécessairement aussi spectaculaires que des catastrophes naturelles qui surviennent du jour au lendemain, telles des cyclones ou des tremblements de terre. C'est une crise dont on parle depuis très longtemps, dont on met en avant principalement les dimensions politiques, stratégiques, militaires, etc., et pas assez la dimension humanitaire, qui est catastrophique. C'est une des crises humanitaires les plus graves que l'humanité ait connues. Mais c'est difficile parce que les images, d'abord, sont difficiles à obtenir. Les témoignages sur place sont très difficiles à obtenir. Et vous savez bien que des journalistes ont payé même de leur vie le travail qu'ils ont essayé de faire là-bas. Donc il y a tout un travail de conscientisation, de communication, de pédagogie à faire du grand public. Et c'est difficile dans un environnement médiatique qui aujourd'hui se concentre, et pourquoi pas à juste titre, sur les élections européennes, voire même sur le Festival de Cannes. Donc on a un gros travail à faire. Il y a une vraie générosité du public français. Nous en sommes les premiers témoins et les premiers bénéficiaires aussi au Secours catholique. Mais ça reste insuffisant. Et donc un gros travail de communication est à faire sur ce qui se passe dans ce pays et dans cette région.
Sébastien Deschamps, responsable des urgences internationales au Secours catholique, interrogé par Audrey Radondi. Et toujours ce vendredi, le pape François a reçu pour la première fois Massoud Barzani, président de la région autonome du Kurdistan irakien, une province où vit une très ancienne communauté chrétienne qui a grossi avec l'afflux de réfugiés du reste de l'Irak et de la Syrie. Ils sont souvent classés sous l'étiquette de progressistes. Les catholiques allemands tiennent ces jours-ci, jusqu'à dimanche prochain, leurs états généraux à Ratisbonne, dans un climat apaisé. Le pape François leur a fait parvenir un message pour les encourager à prier les uns pour les autres, à témoigner de leur foi et à devenir des bâtisseurs de ponts dans l'Église et dans la société. Jean-Baptiste Cocagne.
Après des années de tensions et de grogne, le célèbre Katholikentag, qui en est à sa 99e édition, se déroule dans un climat d'enthousiasme et d'espérance. Certes, des dossiers sensibles, comme le sacerdoce des femmes et l'euthanasie, continuent de susciter quelques tensions, mais le thème choisi pour ces journées est révélateur, construire des ponts avec le Christ. Dans une interview croisée, le cardinal Marx, président de la conférence épiscopale, et le président du comité central des catholiques allemands, Alois Gluck, ont affiché leur convergence au sujet du suicide assisté, appelant de leur vœu le développement des soins palliatifs. Le pape François a choisi quant à lui d'évoquer dans son message aux participants deux anniversaires emblématiques, le centenaire de la Première Guerre mondiale qui a été suivi d'autres guerres et conflits épouvantables, et le 25e anniversaire de l'effondrement du mur de Berlin. Après la Grande Guerre, souligne-t-il, des murs de méfiance, de colère et de haine ont été érigés dans les cœurs. La réconciliation est devenue difficile, les Allemands en ont fait l'expérience amère avec le mur de Berlin, qui a engendré tant de douleurs et de séparations. Mais des hommes toujours plus nombreux se sont réunis dans les églises pour prier pour la paix, semaine après semaine, et le mur a fini par tomber. Voilà quelle est, selon le Saint-Père, la mission des chrétiens. Prier, veiller et lire l'Évangile, puis sortir pour porter aux autres la bonne nouvelle.
Et toujours en Allemagne, le pape François a nommé archevêque de Fribourg, Mgr Stéphane Bürger. Il succédera à Mgr Robert Zollitsch, qui avait démissionné en septembre dernier pour atteinte de la limite d'âge. Quelques mois plus tôt, il avait demandé au pape Benoît XVI de pardonner les erreurs commises à son encontre au sein de l'Église en Allemagne. Je vous le disais en titre, le juge antiterroriste Marc Trévidic ne pourra pas se rendre en Algérie pour mener des expertises sur les dépouilles des moines de Tibérine tués en 1996. Le magistrat français a été contraint une nouvelle fois d'annuler son déplacement prévu samedi. Il devait se rendre sur place pour procéder à l'exhumation des têtes des 7 moines cisterciens français dans l'espoir de faire progresser l'enquête. Officiellement, les 7 religieux ont été tués par des islamistes du GIA qui avaient revendiqué leur rapt. Mais la piste de la bavure de l'armée algérienne n'est pas exclue. Des questions restent sans réponse. Les têtes inhumées sont-elles bien celles des 7 moines ? Peut-on tenter de vérifier les conditions de leur mort ? Laurent Fabius doit se rendre en Algérie le week-end prochain. On peut parier que ce dossier sera abordé. En Inde, l'archidiocèse de Goa lance une campagne de prévention des suicides qui ne cesse d'augmenter. Il a ouvert une ligne téléphonique d'écoute et de soutien, active 24 heures sur 24, sous la devise « Dieu sauve la vie ». L'initiative est parrainée par le Centre diocésain d'animation missionnaire. L'archevêque de Goa estime qu'il faut aider les hommes à retrouver l'espérance dans la société contemporaine. Depuis un demi-siècle, le taux de suicide en Inde est orienté à la hausse. En 2010, l'Inde a enregistré plus de 180 000 suicides parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Les plus exposés au risque suicidaire sont ceux qui doivent faire valoir des qualifications incomplètes ou incertaines sur le marché du travail. À Goa, le taux est de près de 16% supérieur à la moyenne nationale. Une donnée alarmante et angoissante selon l'église locale. L'ouverture d'une ligne d'écoute téléphonique doit permettre de venir en aide aux personnes atteintes de dépression, en particulier les jeunes confrontés à de nombreux défis. Pauvreté, toxicomanie, alcoolisme, échec affectif, analphabétisme, superstitions ou encore controverses liées à la question de la dot. Il faut les aider à apprécier la vie et à surmonter leurs frustrations. Caritas et des missionnaires se sont associés à cette initiative. Dimanche prochain, 1er juin, l'Église catholique célèbre la 48e journée mondiale des communications sociales. Objectif, mieux faire connaître les moyens de communication au niveau des paroisses, des diocèses et des services de l'Église catholique. Selon le pape François, les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'un des endroits pour vivre l'appel à redécouvrir la beauté de la foi et de la rencontre avec le Christ. Par le biais des médias, l'Église peut embraser les cœurs. Je vous propose d'écouter Christophe Meillot, professeur à l'école de management de Lyon et dirigeant de l'agence de communication Altériade qui travaille pour des associations diocésaines. C'est cette agence qui est à l'origine des campagnes adopteuncuré.com pour le diocèse de Rouen et l'homme en mission pour le diocèse de Gap.
La communication sociale, c'est une expression qui est parfois un petit peu polysémique, mais si on prend dans son acceptation la plus large, c'est effectivement la communication mise au profit, au bénéfice d'organisations qui ont une vision sociale ou sociétale.
Et durant ces dernières années, l'Église a adopté aussi une communication, on va dire, 360 degrés, c'est-à-dire qu'elle communique aussi bien offline et online. Y a-t-il un risque pour l'Église de communiquer à travers ces médias-là ?
Il y a toujours un risque de communiquer. Je pense que quand Jésus parlait, il prenait des risques et d'ailleurs ça lui a coûté très cher si on peut raisonner humainement. Donc le risque de la parole, le risque de la prise de parole est inhérent finalement à la communication. Est-ce à dire que pour autant il faut se taire ? En tout cas je pense que la vocation de l'Église qui est incarnée dans le monde est une vocation de faire entendre sa parole. Donc même si le risque existe, je pense de toute façon il faut être capable de l'affronter avec lucidité et je pense que les bénéfices qu'on peut attendre sont bien supérieurs aux risques que cela peut générer. Je crois en particulier que ces techniques Internet qui sont souvent diabolisées, y compris à l'intérieur même de l'Église, parce que justement non maîtrisables, parce que capables du pire, sont aussi capables du meilleur, parce que sont aussi capables de rapprocher des personnes, d'être un vrai outil de dialogue et de concertation. Et donc l'Église doit les aborder avec cet optimisme, sans idéalisme utopique, mais avec cet optimisme inhérent à ses valeurs. Et si on aborde les personnes avec joie, aujourd'hui c'est vraiment les mots-clés que les gens ont envie d'entendre, c'est joie, c'est authenticité. Et c'est vraiment ces mots que peut incarner très naturellement, finalement, l'Église.
Est-ce que le pape François a changé aussi le moyen de communiquer de l'Église ?
Il aide beaucoup l'Église dans son image et notamment auprès aussi d'un public beaucoup plus large que les fidèles de l'Église catholique. Alors, peut-être faire attention aussi à ce que tous les organismes catholiques, la presse, les différents médias, télé, Zéma, radio, à chaque fois qu'on ne surutilise pas l'image quand même du pape, parce que sinon, finalement, à force de voir son image partout, on en oublie que ce qu'il dit, c'est que chacun doit être responsable de l'Église. Et donc, ne nous réfugions pas finalement derrière l'image du pape pour nous permettre de ne pas être nous-mêmes acteurs de cette rencontre de communication qu'il nous propose de vivre avec les autres.
François Meillot, dirigeant de l'agence de communication Altériade, interrogé par Esther Vazeux. Un consistoire aura lieu le 12 juin au Vatican pour l'approbation de 6 causes de canonisation concernant 4 Italiens et 2 Indiens, 5 hommes et 1 femme, dont 4 fondateurs. Parmi eux, le fondateur de l'Institut des Sœurs de Sainte-Dorothée, Mgr Jean-Antoine Farina, évêque de Trévise et grande figure d'éducateur au XIXe siècle. Homme de charité, connu pour sa grande spiritualité et sa générosité apostolique, il consacra une attention particulière à la formation de la jeunesse et aux soins des indigents et des laissés pour compte, répondant aux graves nécessités sociales de l'époque. Et puis sachez qu'un train avec 500 enfants en difficulté scolaire arrivera en gare du Vatican ce samedi. Les enfants venus de Naples ou de la périphérie de Rome rencontreront le pape François après avoir visité la basilique Saint-Pierre. Cette opération, baptisée le train des enfants, chercheurs de lumière, est une démarche du Parvis des Gentils, une initiative du Conseil pontifical de la culture qui a pour but d'encourager le dialogue avec les non-croyants. Déjà en juin 2013, le Saint-Père avait accueilli des enfants de 150 enfants en difficulté venus de la même manière de Milan, Bologne et Florence. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bonne fin de semaine à tous.